recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Louis XI fut une tête politique, passionné pour son métier de roi. Tenant que la négociation rendait mieux que la guerre, Louis XI d'ailleurs s'entoura pour les besognes secrètes qu'il affectionnait, de gens dont il pouvait tout attendre et qu'il pouvait désavouer à l'occasion. Non des conseillers, mais des agents, voire des espions.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Les nouvelles technologies qui ont donné aux réseaux sociaux leur prodigieux essor suscitent désormais une interrogation lancinante. Celle qui concerne les vertus et les périls de la transparence toujours accrue d'une société par rapport à elle-même. Une transparence qui permet de débusquer dans l'ordre du politique et de l'économique divers manquements au pacte social, diverses défaillances morales, diverses turpitudes, jusqu'à nos jours trop souvent dissimulées. Mais une transparence qui risque aussi de devenir oppressante pour les individus en livrant leur vie privée à toutes les intrusions de puissance qui les dépassent. Une transparence qui, tout en autorisant l'État à pénétrer là où il n'a que faire, peut rendre difficile l'exercice efficace de ses missions régaliennes. On ne peut jamais gouverner en étant constamment derrière un verre, livré au regard instantané de tous, à l'immédiateté des passions collectives. On ne peut pas conduire une diplomatie sans une bonne part de secret en face des forces qui porte les appétits, les ambitions, les concurrences des autres pays. Seule une certaine opacité, au moins temporaire, au moins partielle, permet à l'État de demeurer, dans les domaines où cela est légitime, le maître des horloges. Je semble parler ici des défis d'une modernité extrême, mais cette problématique est-elle si neuve que cela? Voilà bien une question qui nous est familière à ce micro. Jean-Baptiste Santamaria, mon invité maître de conférence à l'Université de Lille, vient de publier un beau livre où il s'attache à considérer ce que furent les usages du secret par les rois et par les princes de France et de Bourgogne entre le XIIIe et le XVe siècle. Loin, oui, loin, très loin de nous, et pourtant, nous allons voir.
Jeanne, vous requérons de dire simplement et absolument vérité sur les questions qui vous seront posées, sans réserve au serment.
Donnez-moi congé de parler. Par ma foi, vous me pourriez demander telle chose que je ne vous dirai pas. Peut-être que sur beaucoup de choses que vous me pourriez demander, je ne vous dirai pas le vrai, spécialement en ce qui touche les révélations, car par aventure, vous me pourriez contraindre à dire telle chose que j'ai juré de ne dire point. Ainsi, je serai parjure, ce que vous ne devriez pas vouloir.
Nous vous requérons de jurer et nous vous admonestons de dire vérité sur tout ce qui touche le procès, car vous vous exposez à un grand péril en vous récusant ainsi.
Je suis prête de jurer de dire vérité sur ce que je saurai touchant le procès, mais je ne dirai pas tout ce que je sais.
L'insigne professeur en théologie sacrée, maître Jean Beaupère, va vous interroger à nouveau de notre ordre et commandement.
La voix vous a-t-elle interdit de dire tout sur ce qu'on vous demanderait?
Je ne vous répondrai point là-dessus. J'ai de grandes révélations touchant le roi que je ne vous dirai pas.
Vous croyez que cela déplaît à Dieu que l'on dise vérité?
Mes voix m'ont dit de dire certaines choses au roi, non à vous. Cette nuit, la voix m'a dit beaucoup de choses pour le bien du roi. Et je voudrais que le roi l'ait su. Dussé-je ne pas boire de vin jusqu'à Pâques, car le roi en serait plus aise à dîner.
Quel signe avez-vous donné à votre roi?
Je vous ai toujours dit que vous ne me le tireriez pas de la bouche. Allez lui demander.
Avez-vous juré de ne pas révéler ce qui vous serait demandé touchant le procès?
Ailleurs, je vous ai dit que je ne vous dirai pas ce qui touche et va à notre roi. De ce qui va à notre roi, je ne vous le dirai pas.
Vous ne savez pas le signe que vous avez donné à votre roi?
De ce que j'ai promis de tenir bien secret, je ne vous le dirai. Je l'ai promis en tel lieu que je ne peux le dire sans me parjurer.
À qui l'avez-vous promis?
À Sainte Catherine et à Sainte Marguerite. Et ce fut montré au roi. Je leur ai promis sans qu'elles le requissent, de ma propre requête. Trop de gens me l'eussent demandé.
Quand vous avez montré votre signe à votre roi, y avait-il d'autres personnes en sa compagnie?
À ce que je pense, il n'y avait d'autres personnes que lui, bien qu'assez près fussent beaucoup de gens.
Jean-Baptiste Santamaria, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre un extrait des minutes du procès de Jeanne d'Arc, qui a inspiré une émission qui s'appelait Le procès de Jeanne, une adaptation radiophonique de Dominique Gérard, avec dans le rôle de Jeanne, Jeanne Moreau, débutant dans la profession, avec Jean Marchat, qui jouait Pierre Cochon, et François Vibert, qui jouait Jean Beaupère. C'était une émission du 28 juillet 1953. À propos de Jeanne Moreau, Virginie Linhart va proposer dans quelques semaines ou dans quelques jours un très beau documentaire qui lui est consacré pour Arte. Mais restons avec Jeanne d'Arc. Cela plaît-il à Dieu que l'on se tait? Cela doit-il être dû au roi? On est déjà au cœur de la question du secret.
Et autour de ces secrets de Jeanne, en fait, on voit se télescoper plusieurs contradictions liées à la nature même du secret. Il y a d'abord le secret de la procédure inquisitoire qui est menée par Pierre Cochon face à une jeune femme qui ne sait pas de quoi elle est accusée et à qui on demande ses plus profonds secrets. Et cette procédure, Jeanne la récuse avec toute son intelligence, son courage, rappelant des choses qui sont censées être de la connaissance des savants. On sait que Thomas d'Aquin explique par exemple qu'il est interdit de dévoyer la procédure, ce qui est plus ou moins le cas du procès, que dans ces cas-là, on a le droit de garder ses secrets. Et donc, elle refuse de prêter serment de tout dire.
Fidèlement à Thomas.
Alors, elle a cette intuition, cette connaissance qui, dont on ne sait pas d'où elle vient, du caractère inique, en fait, de ce qui est en train de se passer. Et deuxième niveau du secret, le secret entre le roi et ses proches, que Jeanne est, elle est rentrée à son service, et elle est rentrée à son service par un pacte secret que signalent effectivement les chroniqueurs Alain Chartier à la cour. Elle lui dit quelque chose, qu'on entend à la fin de l'extrait, mais personne ne sait quel est ce signe par lequel elle est identifiée. Et en retour, elle entre à son service, et donc elle entre, comme les conseillers, comme tous les gens autour du roi, avec un pacte de confiance. Elle ne doit pas trahir le secret du roi.
Et en même temps, il y a à l'entour des conseillers, sûrement gourmands de savoir ce qui se dit.
Sauf que l'entretien se fait en dehors de ces conseillers, de ces gens qui pourraient entendre. Et c'est ce qui est rappelé. Alors, il y a troisième niveau de secret, c'est les secrets de Dieu. Et là, on touche aux limites, non seulement du pouvoir du roi, mais aussi des juges. Il y a des choses que l'on ne doit pas savoir. Dieu ne veut pas révéler tous ses secrets. On va citer effectivement l'évangile, hein. Il ne faut pas semer les perles devant les pourceaux. Il y a certaines choses que Dieu cache et c'est une donnée qui est parfaitement admise. Jeanne n'est pas tenue de dire ce qu'elle a entendu de Dieu, qui plus est parce qu'elle a servi de messager entre Dieu et le roi. Et ce qui se fait entre Dieu et le roi ne regarde personne d'autre, et encore moins des gens qui, il faut le dire, sont au service de son adversaire, le roi d'Angleterre.
Donc avec ce sujet du secret qui nous occupe ce matin, on rencontre à la fois des questions théologiques, des questions très, très concrètes du pouvoir et de la psychologie des gouvernants.
Exactement. Et le métier de gouvernant, c'est savoir combiner tous ces aspects du secret, j'allais dire, depuis la chambre à coucher jusqu'aux séances du conseil.
Le secret n'étant évidemment pas séparable de la révélation. À propos du secret, d'où vient ce mot? Il faut toujours regarder l'étymologie des vocables dont on va se servir. Et celui-ci, c'est le nôtre ce matin.
Alors, il y a tout un lexique du secret. Lorsqu'on étudie les mots utilisés pour décrire tous les secrets liés au pouvoir, on rencontre très peu les mots les plus chargés d'une dimension religieuse, mystère, occulte, qui sont réservés à la fois à Dieu et au diable, avec quelques exceptions. On rencontre plutôt des mots qui désignent une réalité pratique, matérielle, hein, secretum, c'est le latin secerno, c'est-à-dire distinguer, mettre à part, ça donne aussi la sécrétion, c'est-à-dire que c'est ce qui est réservé à certains. Un peu comme privé.
C'est devenu aussi un meuble, là où on cache ses secrets souvent de famille. Et puis, c'est un personnage qui vous aide et à qui on fait confiance en lui.
Secrétaire, exactement. D'ailleurs, on invente au XVe siècle une étymologie en disant que Le secrétaire, c'est celui qui sait le secrétaire. Donc on trouve essentiellement secret, qui a un sens assez neutre. On va aussi trouver des mots d'anciens français qui ont disparu, comme mussier, hein, qui signifie caché, qui est un terme probablement d'origine celtique.
Je pense aussi à arca, qui donne arcane, c'est un coffre en latin.
Oui, exactement. Alors arca va dériver vers un sens plus mystique, les arcanes, arcana, qui est plutôt utilisé pour les secrets de Dieu, qu'on rencontre éventuellement pour les secrets du prince, mais plus rarement, et va évoluer vers les archives, c'est-à-dire les lieux dans lesquels on cache des secrets écrits, en particulier des princes.
Est-ce que dans ce domaine, les contemporains de votre époque, c'est-à-dire du XIIIe au XVe siècle, est-ce que pour eux le souvenir de l'Antiquité grecque et romaine a pesé ou compté comme ce fut le cas ultérieurement au moment de la Renaissance ?
Bien entendu, lorsqu'on lit les principaux miroirs des princes, en particulier dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, on s'intéresse beaucoup à des références antiques, Aristote, dont la pensée politique est fondamentale, Végès, hein, auteur de traités militaires, qui souligne l'importance du secret, notamment à la guerre.
Végès, rappelez-nous.
Végès, donc théoricien de l'art militaire romain de la fin de l'Antiquité romaine.
Qui abondamment est lu à l'époque.
Voilà, qui est un best-seller, là encore, médiéval, qui inspire la plupart des traités. C'est lui qui explique qu'il faut garder un plan secret jusqu'au moment de son exécution. Les Romains aussi, plus largement, sont présentés comme des maîtres du secret. On dit des consuls qu'ils sont ceux qui connaissent tous les secrets de la ville, de l'Empire, et on ne réserve pas la notion de secret, d'ailleurs, strictement au régime monarchique.
Pour Tacite, un secrétoriste, c'est un affranchi qui s'occupe d'affaires confidentielles.
Alors, Tacite, on lui doit une expression qui fait florès, et qui sont les arcana imperii, qu'on revoit à la Renaissance, et en réalité, qui n'est pas directement signalée au Moyen-Âge, mais qu'on retrouve sous une autre formule, regni arcana. Les arcanes du royaume, c'est ce qu'utilise Michel Pintoin dans sa chronique dite du religieux de Saint-Denis à propos de Charles VI. Et c'est amusant parce qu'on attribue ce retour des regni arcana à la Renaissance. Il semble que l'idée des secrets, des coulisses du pouvoir comme une idée abstraite soit en fait assez présente, hein, dans les sources médiévales.
Il y a un traité peut-être pseudo-aristotélicien qui est en fait d'origine arabe, peut-être venu d'Inde ou de Perse, et qui s'appelle « Le secret des secrets ». Ça, c'est un maximum.
Oui, alors c'est d'ailleurs un best-seller, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a des dizaines de manuscrits qui prouvent que le secret, évidemment, c'est une manière de faire connaître son œuvre. Alors, ce sont les enseignements secrets dispensés par Aristote, d'où l'idée que sont des traités pseudo-aristotéliciens, à Alexandre.
Son élève.
Alexandre le Grand, son élève. Donc c'est un mélange de savoir politique, mais aussi de sciences occultes qui permettent de gouverner, notamment la capacité de lire sur les visages, la physiognomonie pour connaître les intentions de son adversaire. Et c'est un traité qui évoque évidemment l'importance du secret, à tel point qu'il est dit que normalement ce traité ne doit pas circuler, notamment parce qu'il pourrait tomber entre les mains de tyrans.
Donc, la distinction se fait toujours entre le tyran qui abuse du secret et le prince qui en fait un usage adapté à ses devoirs et adéquat, en somme, à sa charge.
Oui, alors, ce n'est pas l'usage du secret en soi qui fait la différence entre le tyran et le prince légitime. C'est effectivement la finalité. C'est aussi que le tyran passe facilement du secret au mensonge. Et là, dans ces cas-là, on bascule vers la tyrannie, la chose est assez attestée dans les miroirs des princes qui mettent systématiquement en garde les princes contre la tentation du mensonge. Et le secret, c'est une manière d'éviter le mensonge.
Nous allons trouver constamment un entrelac entre ces deux notions, le risque de passer de l'un à l'autre.
Tout à fait, puisque effectivement, le mensonge, c'est une manière de garder un secret, puisqu'on le cache derrière... Tout chrétien, et pas seulement tout roi, même pour une nouvelle création du monde, ne saurait mentir.
C'est là qu'on en arrive à la somme des injonctions faites aux princes par les traités du moment et jusqu'à plus tard. Nous verrons tout à l'heure Machiavel à la fin de votre période, au début de la Renaissance. L'astrologie sert à l'époque à l'instruction des princes quant à la question du secret.
les princes s'intéressent à l'astrologie. L'astrologie en soi ne pose pas de problème scientifique dans la mesure où elle consiste à expliquer les états du corps ou les états de l'atmosphère par la conjonction des planètes. C'est l'état de la science.
Si mais elle touche au secret lorsqu'elle...
Mais elle touche au secret, effectivement, lorsqu'elle sert
à... Rencontre la question du pouvoir.
Voilà, lorsqu'elle sert à analyser le fonctionnement d'un prince, voire à anticiper sur ses réactions, sur sa vie future, sur sa mort. Et donc, on a des thèmes astro qui sont effectivement faits sur des princes adverses. On voit ça, le duc de Bedford, par exemple, s'intéresse beaucoup aux thèmes astro de ses rivaux, comme le roi Charles VII.
En somme, ce sont des savoirs que Dieu a cachés, que seuls les princes doivent savoir ou peuvent savoir.
Alors, non seulement Dieu a caché, mais en fait, personne ne doit savoir, et même les princes n'ont pas le droit d'aller fouiller de ce côté-là. Nicolas Aurem, théologien proche de Charles V, écrit un traité contre l'astrologie en disant que c'est là une voie occulte qu'il faut absolument rejeter. Mais bien sûr, la tentation de savoir, gouverner, c'est prévoir, est parfois trop forte.
Christine de Pizan, qui est une personnalité éminente au cœur de votre sujet, vous allez sûrement nous en parler, avait comme père Thomas, un médecin qui était en même temps astrologue. C'est une rencontre qui était fréquente à l'époque. Astrologue de Charles V et qui conseille d'utiliser, la fille et le père conseillent d'utiliser l'astrologie à des fins politiques.
Oui, elle considère que c'est tout à fait légitime. Alors, Christine de Pizan a un regard, elle participe... à la cour de France, mais elle a un regard parfois intéressant, parfois décalé avec d'autres textes de son époque, et elle est beaucoup plus ouverte, si je puis dire, sur toute une série de pratiques, notamment sur la manière de dissimuler, qui font qu'elle a parfois une voix assez originale. Alors, sur l'astrologie, elle ne fait qu'énoncer une banalité, qui est que effectivement, les princes y recourent. Elle est peut-être moins bornée, ou en tout cas plus à l'aise avec cette question que beaucoup de théologiens.
Elle vit à quelle époque ?
Alors Christine de Pizan, donc effectivement son père arrive à la cour de Charles V, c'est un Vénitien, elle y grandit et elle écrit essentiellement son œuvre sous Charles VI.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le règne de Charles VI, c'est 1380-1422, au moment où elle est veuve et où elle vit de sa plume.
Eh bien, j'ai le goût de vous la faire entendre, parce qu'elle pose plusieurs des questions que nous allons avoir à rencontrer au cours de cette émission. Elle écrivait « On doit bien regarder devant qui on parle, mais le cœur, qui est gros et plein, souffre mal de toujours faire taire la bouche de ce qui lui déplaît. Mais en parlant, elle gâterait toute son affaire, car ce serait sa honte et une atteinte à sa grandeur si ses ennemis s'apercevaient qu'elle sut, qui ne l'aimait pas et fit semblant de les aimer, car ils penseraient qu'elle le fit par crainte, et ils en seraient plus orgueilleux et hardis de lui nuire, et l'en estimeraient moins, elle saura donc bien s'en garder. » Et elle ajoute un peu plus loin, « La sage dame usera de cette discrète dissimulation et prudente qu'autel, qu'autel-le, ça veut dire évidemment la ruse, qu'autel, ce que je ne crois point être un vice, c'est déjà Machiavel, mais une grande vertu, quand elle est faite pour cause de bien et de paix, et sans faire personne injure, et pour éviter un inconvénient plus grand. » C'est du réalisme au service de la dissimulation, du secret, et on est à la frontière du mensonge, comme vous le disiez tout à l'heure.
Voilà, le moindre mal. Effectivement, c'est une notion qui est bien connue au Moyen-Âge. Alors, elle ne va pas jusqu'au mensonge, elle est dans ce qu'elle appelle la dissimulation, faire semblant par des gestes, est considéré comme moins grave que de trahir la nature de la parole. La parole, c'est effectivement un don de Dieu qui doit être au service de la vérité. Mimer, faire semblant, il y a un débat chez les théologiens qui considèrent que c'est peut-être moins un péché. Et alors effectivement, elle est relativement originale, elle va assez loin dans son portrait, elle dit quand même qu'il ne faut pas mentir. Hein. Quand elle fait le portrait du roi Charles V, elle dit qu'il ne ment jamais. Par contre, elle incite effectivement les princesses, elle pense beaucoup à ces dames nobles entourées d'une cour qui ne lui veut pas toujours du bien. Elle les incite à tromper les trompeurs en leur donnant des informations sans importance et en prenant de grands airs pour voir qui est capable de les rapporter. Et elle encourage à la méfiance.
On voit bien comment toujours, il y a de l'ambiguïté. On est pourtant loin avant l'analyse jésuitique de ces choses. La bouche ne peut pas feindre, mais le visage peut non seulement dissimuler, mais faire croire ce qui n'est pas.
Oui, il y a une dimension casuistique, c'est-à-dire qu'on peut, jusqu'à un certain point, tant que, en gros, la bouche ne prononce pas des mots que l'esprit rejette, tant qu'il n'y a pas une contradiction entre la parole et la pensée, on peut aller assez loin. Elle donne d'autres exemples à propos du roi Charles V qui, sachant qu'on complote contre lui, fait semblant de ne rien voir, ce qui n'est pas en soi un mensonge, pour déjouer le complot en continuant de suivre ceux qui sont en train d'agir contre lui. Et d'ailleurs, elle donne même l'exemple où il finit par récompenser un clerc dont le talent et la fourberie pour obtenir toute une série de récompenses pour son propre compte lui paraissent dignes d'être récompensés. Il devine chez ce clerc un talent pour l'intrigue qui lui paraît tout à fait légitime. Et elle dit à ce propos que, en certains cas, sage Cotel fait bien avancer les affaires du royaume.
Il y a un domaine où ce secret frappe pour cette période qui est la vôtre, Jean-Baptiste Santamaria, c'est la question de la santé du prince. Je ne pense pas à quelque chose de dérisoire comme ce roi qui a voulu dissimuler qu'il devenait chauve très tôt, cacher sa calvitie.
Charles VI,
encore c'était un peu... Encore que quoi.
Les cheveux ont une fonction tout à fait important dans l'incarnation de la force, de la virilité, sans remonter...
Samson.
Oui, à Samson ou au roi franc, hein, dont Charlemagne en particulier, dont on admirait la chevelure.
Il y a des maladies plus graves. Et pour vous inciter à un va-et-vient, il y a peut-être des réflexions sur ce qu'à d'autres moments on appelait les deux corps du roi, l'incarnation du pouvoir et l'homme souffrant. Écoutons donc cet entretien entre Jean-Pierre Elkabbach et le président François Mitterrand à la fin de son second mandat. On est sur France 2 le 12 septembre 1994 et vous allez me dire ensuite si les temps ont tellement changé.
Vous ne vous êtes pas adressé, Monsieur le Président, aux Français depuis le 14 juillet dernier, sinon dans ce discours qui a été prononcé devant la mairie de Paris pour l'anniversaire de la libération de Paris. C'est donc la première fois que les Français vont vous retrouver comme ça en direct après votre deuxième intervention chirurgicale. Est-ce que l'été a été difficile, douloureux pour vous ?
Oh, quand même. Vous avez une deuxième opération sur une maladie qui n'est pas facile à dominer. Ça m'a laissé un peu sur le flanc. Mais enfin, ça n'a pas vraiment arrêté mes activités, puisque pratiquement, je me suis absenté de 5 jours.
Est-ce que vous souffrez encore aujourd'hui, j'ai envie de dire chaque jour ?
Oh, ça ne vous regarde pas, ça. Ça ne vous regarde pas.
Mais la maladie, vous la sentez, elle est présente ?
Elle est là, naturellement. Mm. Elle n'a pas été réduite.
Et est-ce que vous subissez un traitement ? On dit que vous subissez un traitement qui est fatigant.
Tout traitement de ce genre, écoutez, il y a en France à l'heure actuelle des dizaines de milliers de personnes qui sont atteintes du même mal ou qui ont des cancers infiniment plus douloureux que celui-là. Quand je pense à la somme de leurs souffrances, je préfère me taire sur les miennes car je ne suis pas l'un de ceux qui sont le plus durement atteints.
Mais ils ne dirigent pas la France, ils ne sont pas la tête d'un pays.
C'est une autre question.
Et comme vous avez toujours donné l'impression que vous souhaitiez la vérité, y compris sur des sujets aussi personnels et difficiles, nous nous permettons de poser ces questions. Est-ce que vous pensez que la maladie et le reste, ça se domine ? En tout cas, que vous le dominerez ?
Ce serait beaucoup de prétention. Ce que je puis dire, c'est que jusqu'à ce jour... Je n'ai été empêché de rien et je n'y ai pas acquis de complexe ni de sentiment d'impossibilité. Bon, au point où j'en suis, ça devrait durer encore quelque temps quand même.
C'est-à-dire ?
Il n'y a pas de pronostic qui puisse se justifier. Est-ce que vous savez combien de temps il vous reste à vivre ? Alors moi, naturellement, comme je suis malade, ce qui heureusement n'est pas votre cas, cela peut connaître des accélérations. Mais je n'en sais rien moi-même. Je suis en situation de combat. Et quand je livre un combat, je me mets aussi dans l'état d'esprit de celui qui le gagnera.
Oui. Mais vivre comme ça chaque jour avec le poids de l'attention et du regard des autres, comment ça se supporte ça ?
C'est pas très agréable, mais enfin, on s'y fait aussi. Et puis j'ai un devoir vis-à-vis de l'opinion française.
Ça ne vous regarde pas, dit-il, et en même temps, ça nous regarde, puisqu'il y a la brutalité des questions qui sont posées et dont finalement le président de la République accepte la violence, puisqu'il y répond. On retrouve au fond Louis XI qui disait à son fils « Tous ont plus l'œil sur les princes que sur un autre, ce qui, à ses yeux, exigeait spécialement le secret. » Mais toujours, il y a cette dialectique entre la révélation et le cachet.
Oui, alors d'autant plus qu'on est dans les contradictions d'une monarchie républicaine où on se soucie de l'opinion, de la vérité. Il y a une élection quand même. Et en même temps, l'exercice d'un pouvoir incarné par une personne, d'où part la décision. Et donc, si cette personne n'est pas en mesure de prendre des décisions, il y a un problème. Il y a un problème et le prince est affaibli. Parce qu'aussitôt, il peut y avoir des menaces sur sa capacité à gouverner, des tentatives de le remplacer, ou en tout cas de le défier.
Et là, on retrouve le choix politique qu'avait fait François Mitterrand depuis qu'il avait appris son cancer, quelques mois après son accession au pouvoir, à la fin de 1981, de dissimuler ce fait aux Français tant qu'il l'a pu.
Le dissimuler tout en publiant, me semble-t-il, des bulletins de santé.
Faux.
Voilà, c'est-à-dire que là, on est dans la contradiction d'un régime de transparence qui oblige au mensonge à moins d'accepter d'être affaibli. Car en vérité, la transmission d'informations sur l'affaiblissement du pouvoir sert des ennemis. Alors ici, en plus des ennemis politiques dans un système d'élection où, évidemment, on peut attendre de prendre la place. Pour les princes, on se méfie surtout des enfants. Et on sait que à la fin du principat de Philippe le Bon, alors que le prince est dans un état de quasi-sénilité, le pouvoir est progressivement capté par son fils, qui attend depuis fort longtemps sa place. Il est évident qu'un fils a parfois tendance à présenter son père comme n'étant plus vraiment capable de gouverner.
C'est un danger qui est à peu près absent de nos démocraties. En revanche, ce qui demeure vrai, c'est le propos de Louis XI qui disait « Qui nescit dissimulare, nescit regnare ». Qui ne sait pas dissimuler, ne sait pas régner. On n'est pas si loin de ce qui s'est passé pendant les années de la présidence de François Mitterrand, pendant longtemps en tout cas.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'on considère que la naïveté face à la diffusion de l'information est un obstacle. Pour reprendre un héritier de François Mitterrand, un autre François Hollande, la manière dont il a distillé ses confidences a participé d'une forme de suicide politique et qui a fait aussitôt rejaillir dans ses rangs proches des propos tout à fait intéressants. Il me souvient de Laurent Fabius signalant que dans l'exercice du pouvoir, le secret était parfois chose utile.
Georges Pompidou avait eu la même attitude que François Mitterrand quelques années plus tôt, puisque jusqu'à sa disparition, il avait en fait dissimulé autant qu'il l'avait pu la maladie qui le rongeait.
L'autre alternative, c'est la démission. C'est-à-dire que si on estime qu'on n'est pas capable de gouverner, on démissionne ou on ment. Mais évidemment, la pure transparence dans ces cas-là n'a pas... On ne peut pas gouverner en affichant ses faiblesses. Enfin, en tout cas, c'est assez difficile.
Il y a un autre cas frappant à propos du secret dissimulant les réalités à l'époque de la monarchie dont vous vous occupez, du XIIIe au XVe siècle, c'est le cas de la folie du prince.
Alors, la folie du prince, on pense en particulier au roi Charles VI, en vérité, elle n'est pas vraiment dissimulée dans la mesure où le statut de la folie est différent. On ne le voit pas forcément comme un danger parce que le prince peut être épaulé dans ces cas-là, en particulier par ses parents. Au contraire, c'est le signe d'une maladie, d'une faiblesse qui le frappe et qui en fait une sorte de figure quasiment christique. C'est-à-dire qu'il souffre. Il souffre avec son peuple, on est dans la guerre de Cent Ans, et se crée un lien d'affection tout à fait remarquable et qui se voit lors des funérailles de Charles VI en 1422, un grand amour en fait entre le peuple et son roi, qui partage la souffrance.
Donc il n'y a pas de secret là.
Et c'est-à-dire que la connaissance de cette folie est assez rapide. Alors elle est d'autant plus rapide qu'en vérité, les oncles de Charles VI, notamment le duc de Bourgogne-Philippe le Hardi, signalent et font connaître cette folie, ce qui leur permet de prendre le pouvoir et de gouverner au nom de leur neveu. Et là on voit le fait que la transparence ici est mise au service d'une spoliation du pouvoir.
C'est là qu'on retrouve la grande question des entourages, c'est-à-dire jusqu'où va la vérité et où commence le secret. Le secret d'un prince implique presque toujours qu'il le partage.
Voilà, et effectivement, le cercle du secret qui se fait autour du prince repose sur l'amitié, sur la confiance, et parallèlement, en fait, ceux dont le prince se méfie le plus, ceux dont il craint le plus la révélation de ses secrets, c'est son entourage.
C'est parce que c'est le seul entourage qui peut les connaître de plus près.
Mais bien sûr, et on n'est jamais trahi que par les siens.
Mais il a besoin en même temps de le partager pour réfléchir dans son conseil. Écoutez donc cet extrait de l'œuvre de Comines, qui est le grand historien de l'époque de Louis XI. Il a vécu dans la deuxième moitié du XVe siècle. Et qui parle précisément de ce roi qu'il a servi avec une distance, une lucidité conjointe à sa fidélité. Une lecture d'André Cazalas sur France Culture le 14 avril 1988 dans l'émission Une vie, une œuvre de l'excellent Philippe Garbit qui aujourd'hui construit les nuits de France Culture.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Je me trouvais présent à l'assemblée qui se fit au lieu de Pékigny, près la ville d'Amiens, entre notre roi et le roi Édouard d'Angleterre, et en parlerai plus au long où ils servirent. Il se tint bien peu de choses entre eux qui y furent promises. Ils besognèrent en dissimulation. Vrai est qu'ils n'eurent plus de guerre, aussi la mer était entre deux, mais parfaite amitié n'y eut jamais. Et pour conclusion, me semble que les grands princes ne se doivent jamais voir s'ils veulent demeurer amis, comme je l'ai dit. Et voici les occasions qui font les troubles. Les serviteurs ne se peuvent tenir de parler des choses passées. Les uns ou les autres le prennent en dépit. Il ne peut être que les gens et le train de l'un ne soient mieux accoutrés que celui de l'autre, dont s'engendrent moqueries, qui sont choses qui déplaisent merveilleusement à ceux qui sont moqués. Et quand ce sont deux nations différentes, leur langage et habillement sont différents, et ce qui plaît à l'un ne plaît pas à l'autre. Des deux princes, il advient souvent que l'un a le personnage plus honnête et plus agréable aux gens que l'autre, dont il a gloire, et prend plaisir qu'on le loue, et ne se fait point cela sans blâmer l'autre. Les premiers jours qu'ils se sont départis, tous ces bons comptes se disent en l'oreille et bas. Et après, par inadvertance et continuation, s'en parle en dînant, en soupant, et puis est rapporté et des deux côtés. Car peu de choses y a secrètes en ce monde, par espécial de celles qui sont dites. Ici sont parties de mes raisons que j'ai vues et sues, touchant ce propos de dessus.
On sourit, Jean-Baptiste Santamaria, en pensant au nombre de cas aujourd'hui où les grandes ce monde se rencontrent. Là, c'est exceptionnel, et Comines n'aime pas cela du tout.
Oui, alors effectivement, c'est une pratique qui revient dans la geste diplomatique. On pense évidemment au projet de rencontre entre le président des États-Unis et celui de la Corée du Nord, hein, qui est en train d'être mis en place très lentement avec beaucoup de précautions.
Je ne sais pas si les entourages se parleront beaucoup.
Mais en tout cas, on va préparer la chose avec beaucoup d'inquiétude. Parce que ce que souligne Comines, c'est le grand danger de ces rencontres. Il parle ailleurs de grande folie. À ce propos, il a en souvenir des mauvaises rencontres. Le XVe siècle a connu l'assassinat du duc Jean sans peur sur le pont de Montereau en 1419, lors d'une entrevue prévue avec le dauphin.
C'est devenu plus rare aujourd'hui.
Ouais, voilà, effectivement, on fouille un peu mieux les gens avant de les rencontrer. On pense à Louis XI capturé par Philippe le Bon lors d'une autre entrevue à Péronne en 1468. Mais les princes, malgré le risque, aiment ce type de rencontre. Ils pensent pouvoir aplanir les différends, se parler directement d'homme à homme et ainsi éviter que cet entourage qui parfois peut faire écran ne révèle des secrets. Donc on continue d'avoir cette pratique, mais malgré tout, ça a tendance quand même à largement diminuer. Et alors, c'est le deuxième aspect, Comines met en garde contre l'entourage. Ça, c'est le deuxième aspect, en expliquant qu'on parle beaucoup dans les cours et qu'au final, beaucoup de choses vont se dire contre le prince. On pense à Jean Froissart qui explique que les nouvelles vont comme le vent et que dans les cours, on ne fait que jacasser, dire du mal. Comines dit aussi qu'on trouve toujours quelqu'un pour se plaindre de son seigneur. Et donc évidemment, les princes ne se rencontrant jamais véritablement seuls, mais toujours entourés d'une cohorte, il y a le risque que de mauvaises informations passent d'une cour à l'autre, ce qui est évidemment parfois dangereux.
Ce qui inquiète toujours beaucoup, c'est le rôle des femmes. Il y a beaucoup de misogynie chez vos auteurs qui expliquent que la femme jacasse, la femme est toujours vouée à répandre les rumeurs et à trahir les secrets.
Oui, alors effectivement, on voit très bien ça chez Gilles de Rome, qui est l'un des auteurs d'un des plus populaires Miroirs du Prince. Alors, c'est intéressant, c'est une misogynie tempérée, si je puis dire. C'est-à-dire que par nature, on estime que les femmes sont trop faibles pour garder des secrets, car elles aiment les révéler pour être aimées. Elles partagent avec d'autres femmes ses secrets, également par orgueil, et que donc un prince doit se méfier avant de confier ses secrets à son épouse. Dans le même temps, il explique que c'est une situation de nature, mais que la culture, la moralité de certaines femmes font qu'elles sont tout à fait capables de garder des secrets. Et là, on pense que, je dirais, la nature réelle des relations entre hommes et femmes dans les cours princières fait que beaucoup savent qu'ils peuvent se confier à leur épouse. Beaucoup d'épouses à qui on a confié la régence d'un royaume. Et donc dans ces cas-là, lorsqu'une femme est éprouvée et capable de tenir ses secrets, il est absurde de ne pas lui en parler. Et Christine de Pisan en chérit en disant que c'est vrai qu'il faut jamais dire ses secrets à une femme, mais pas non plus à un homme. Parce que il faut d'abord éprouver les gens avant de leur confier évidemment ses secrets.
On rencontre toujours la question, Jean-Baptiste Santamaria, de la nécessité d'avoir des confidents, parfois des mignons, et d'autre part, du danger d'en avoir. Il faut probablement évoquer une sorte de géographie sociale, et concrète d'ailleurs, dans le palais, de la défense, du secret et de la fuite.
Il y a d'abord une dimension psychologique sur laquelle beaucoup d'auteurs, Guillaume Philaste par exemple, insiste, un prince doit pouvoir se décharger de ses tracas. Il faut parler, il ne faut pas garder en soi, être taciturne, c'est très mauvais. Ça conduit généralement à l'orgueil et à l'aigreur. Donc il faut pouvoir raconter ses malheurs et on cite souvent de grandes dames qui se réunissent pour parler de l'infidélité de leur mari. C'est le cas d'Isabelle du Portugal, l'épouse de Philippe le Bon, hein, qui aime en parler. C'est bien. Par contre, il faut savoir à qui on raconte ces types de confidences et il faut choisir des gens d'une moralité exceptionnelle. Or, les princes s'entourent de gens de toutes sortes, y compris de gens qu'on qualifie de petit état ou des gens qui sont capables de les flatter, de les encourager dans leur vie, des gens qui sont effectivement qualifiés de mignons parce qu'ils essayent d'avoir une emprise sur le prince et de transformer cette confiance, je dirais, amicale, intime, en levier de pouvoir, de devenir les maîtres de leur prince. C'est ce que les traités espagnols expliquent en disant qu'un prince qui n'est pas capable de garder ses secrets avec des gens de niveau inférieur devient leur esclave.
Les mignons, il n'y a pas toujours une connotation sexuelle. Parfois, pas toujours, ou rarement peut-être. Ce qui amène d'ailleurs à la question du secret entourant éventuellement la vie privée, la sexualité des princes.
Oui, alors le mignon, c'est celui qui partage l'intimité malgré tout, qui peut dormir en la chambre du prince. Philippe de Comines, par exemple, couche dans la chambre du roi. Mais ça ne signifie pas nécessairement une dimension sexuelle, encore que certains mignons sont connus comme étant au gracieux service d'amour, c'est-à-dire qu'ils fournissent des maîtresses au roi, ce qui est une manière d'entretenir des liens. En revanche, la vie sexuelle du prince, effectivement, est soumise à, je dirais, un juste équilibre. Pas trop de démonstration, bien sûr, car ça serait impudique, mais pas trop non plus de secret. Il faut rassurer. Et les chroniqueurs, à l'évocation des nuits de noces, signalent que, même si on ne peut pas dire que le mariage a été consommé, il semble bien que tout se soit bien passé. On voit ça à propos des noces de Charles le Téméraire avec Marguerite d'York, car s'il ne se passe rien, c'est un désastre et un mariage non consommé peut aboutir à une crise diplomatique d'ampleur. Le prince doit donc manifester de l'affection. Christine de Pisan explique aussi qu'une princesse doit montrer qu'elle aime son époux. Devant tout le monde, il ne suffit pas, évidemment, de le montrer en privé, car ça rassure. Il en va du sort du pays, car évidemment, sans héritier, c'est le grand risque, c'est qu'il n'y ait pas de succession. Alors, évidemment, cette pression de l'entourage est importante. On a le cas bien connu de Saint-Louis, hein, dont on dit que la mère se méfiait de l'amour trop grand qu'il portait à son épouse, un amour légitime et qui leur permit d'engendrer une belle descendance. Et
Blanche
qui...
de Castille, peut-être.
Oui, Blanche de Castille.
Ce type de relation dépasse parfois les familles royales.
Oui, bien sûr. Mais voilà, dit-on qu'il aimait à rejoindre la reine par un escalier secret dans, je crois, le château de Poissy, parce que là, la reine-mère n'était pas au courant de ses visites nocturnes.
Nous laisserons sur ce point nos auditeurs esquisser librement d'éventuelles concordances des temps avec notre présent. Et j'en viens à la question de la bureaucratie, la chancellerie. Comment organise-t-on autour des princes, comment répartit-on le secret ? Aujourd'hui, on a un télégramme, nous dit-on, qui permet, en principe, au prince, au président, de ne parler sub secreto, comme on dit au Vatican, qu'à leurs proches, même si c'est parfois plus compliqué. À l'époque, équivalent de télégramme ?
Alors, évidemment, l'essentiel de l'information passe par l'oral et l'écrit manuscrit. L'oral a la préférence car il n'est pas permis de le dupliquer. Nous ne sommes pas à la radio. Et dans ces cas-là, les plus importants ordres ne sont pas écrits. En vérité, on envoie un messager qui est chargé de donner le message oralement. Lorsqu'on recourt à l'écrit, c'est avec beaucoup de précautions. Un moyen de protéger le secret de la correspondance est de cacher les lettres dans un chapeau, de les dissimuler dans des boîtes aux lettres fermées pour éviter qu'elles soient ouvertes. Mais la seule protection qu'on a, c'est que le courrier n'ait pas été lu sans qu'on s'en aperçoive. Donc on met un sceau sur des lettres closes et si le sceau est brisé, c'est que le secret a été éventé. Évidemment, rien n'interdit de récupérer ses lettres et Louis XI se fait fort d'intercepter les lettres entre ses rivaux.
Il y a donc déjà le phénomène du cryptage en particulier. Il paraît que télégramme est crypté de façon incertaine et parfois permet d'ailleurs de tendre des pièges à certains en faisant croire, je pense aux éventuels terroristes, qu'ils ne sont pas lus alors qu'ils le sont.
Oui, c'est ce qu'on imagine. Alors, les princes français n'aiment pas le cryptage, alors que les processus sont parfaitement maîtrisés par les papes, par les Italiens, qui développent des chiffres tout à fait impressionnants. Les princes français, anglais aussi, hein, ils recourent assez peu, ce qui étonne beaucoup les ambassadeurs milanais, qui sont toujours surpris de voir qu'on utilise si peu le cryptage.
On dit que la papauté est très friande de ce genre de cryptage, sub sigillo tacernutatis, sous le sceau du secret, sous le sceau de qui se tait.
Eh bien, la papauté déjà se heurte à l'influence des cités italiennes avec lesquelles elle est en alliance ou en conflit. Donc à ce titre, elle est dans un environnement compétitif. Elle est obligée de vérifier, de contrôler et de s'assurer du secret de ses correspondances. Cette émulation a probablement joué. Par ailleurs, la papauté est lié au monde par un réseau de lettres considérable, hein, des milliers de lettres qui sont échangées chaque semaine. Et les papes, en particulier, Boniface VIII notamment, prévoient l'excommunication, voire des peines pires, pour ceux qui intercepteraient les courriers pontificaux. Ce qui est amusant parce que la papauté s'autorise elle-même l'interception de messages florentins de son côté.
On ne peut pas faire l'économie d'une citation de Machiavel, même s'il est à la fin de votre période, qui pose très directement la question du secret par rapport à ses propres troupes, à son propre entourage et par rapport à l'adversaire. Il y a les vrais secrets, les faux secrets. C'est Michel Galabru qui lit cet extrait du chapitre 19 du Prince, qu'il faut éviter le mépris et la haine, une lecture de 1999.
Quant au sujet, si le dehors est tranquille, le prince n'a à craindre que les conspirations secrètes qu'il déjouera ou même préviendra en évitant tout ce qui peut le faire mépriser ou haïr, comme je l'ai dit assez au long. D'ailleurs, on ne conspire guère contre les princes dont la ruine et la mort seraient agréables au peuple. On ne s'exposerait pas sans cela à tous les dangers qu'entraînent de telles résolutions. L'histoire est remplie de conjurations. Mais combien en compte-t-on qui ait été couronné de succès? On ne conspire pas seul. Et ceux avec qui on partage les périls de l'entreprise sont des mécontents qui souvent par l'espoir d'une bonne récompense, dénoncent les conjurés et font avorter leur dessein. Ils étaient mécontents. Maintenant, ils se contentent. Ce qu'on est obligé d'associer à la conjuration se trouve entre la tentation et la crainte d'un grand danger. En outre, que pour garder le secret confié, il faut être un ami tout à fait extraordinaire, ou l'ami irréconciliable du prince. Mais finalement, je dis qu'il y a du côté des conjurés que crainte, jalousie et soupçon. Tandis que le prince a pour lui l'éclat et la majesté des gouvernements.
Oui, ce texte nous rappelle, Jean-Baptiste Santa Maria, que le secret fonctionne dans les deux sens. Autrement dit, l'obsession du prince est toujours à la fois de préserver ses secrets et de percer le secret des autres. C'est un miroir sans teint, en fait, dont il rêve.
Oui, bien sûr. Tout savoir sans rien montrer. Alors, là, on nous parle des conjurés. Les conjurés, ce sont toutes ces associations secrètes qui visent à déstabiliser le pouvoir et dont les princes se méfient ou qu'ils dénoncent parce que c'est une bonne manière d'accroître leur pouvoir que de dénoncer des complots. Alors, dès que des gens s'allient contre un pouvoir, ce sont des conjurés. Que ce soit des artisans qui se réunissent à Bruges pour obtenir une amélioration de leur salaire, des princes qui se rassemblent pour contester l'autorité du roi, on parle de conjuration. Et ce que dit Machiavel, c'est que ce type d'organisation a une grande faiblesse, n'a pas de chef. C'est la même chose dans les villes. On a des échevins qui se rassemblent. Et lorsqu'on est plusieurs à décider, il y a toujours le risque que l'un d'entre eux vende la mèche. Et ça, c'est un atout que les princes utilisent pour obtenir les secrets des villes. Ils achètent des gens qui leur livrent les informations que l'on veut leur cacher.
La police redoute toujours plus les individus solitaires, les loups solitaires, que les groupes, espérant toujours qu'il y aura suffisamment de tension à l'intérieur de ces groupes pour que elle soit renseignée.
Alors effectivement, il y a la pression, la mécanique du groupe. Et puis il y a surtout l'idée assez médiévale qu'un pouvoir doit être pyramidal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne décide, entourée de conseillers bien sûr, il y a moins de risques que lorsqu'on se réunit à plusieurs. Et les princes savent assez facilement les secrets qui se partagent à beaucoup. Voilà, parce qu'évidemment, dès qu'on prend des décisions collectives, c'est le cas dans les assemblées d'État, hein, quand on discute de l'impôt, il y a toujours le risque qu'il y ait un espion dans la place. De toute façon, pour garder un secret, il faut au maximum deux personnes.
Ça, c'est une maxime que vous faites vôtre ?
Oui.
Par expérience ?
Mais c'est-à-dire que s'il y a plus de deux personnes et qu'il y en a un qui vend la mèche, on ne peut pas savoir lequel c'est.
Juste observation, la question de l'argent est importante aussi. Où est l'argent ? Comment l'obtient-on, notamment par l'impôt ? Comment organise-t-on les chambres des comptes ? Votre thèse était consacrée à la chambre des comptes de Lille, à l'essor et à l'organisation d'une institution princière à cheval entre le XIVe et le XVe siècle. Donc sur ce point en particulier, vous avez beaucoup à nous dire, Jean-Baptiste Santa Maria.
Oui, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser au secret, en regardant le luxe de détails avec lequel on réglemente la question de l'argent sous le sceau du secret. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en réalité, le prince se méfie essentiellement de son entourage. Il veut cacher l'état de ses richesses à tous ceux qui pourraient lui demander de l'argent. Créanciers, favoris, parents qui, en permanence, quémandent quelques piécettes. Et dans ces cas-là, on voit se développer toute une administration chargée de ne jamais dire combien il y a d'argent, où est l'argent.
Il ne faut pas qu'on puisse savoir qu'il y a une cagnotte.
Exactement, c'est la cagnotte. Et il y a des ordres qui sont signalés pour dire que lorsque de l'argent rentre dans les caisses, il faut que personne ne le sache. Donc il y a ça, ce qui relève de l'argent du roi, de ce qu'il possède, de son domaine. Et puis il y a l'impôt qui est une autre problématique parce que dans ces cas-là, ça n'est pas l'argent du roi, c'est l'argent de ses sujets. Et là, évidemment, la question de la transparence commence à apparaître. Parce que pour qu'un prince réclame de l'argent, il faut qu'il justifie de la nécessité de ce paiement. Et donc à partir de là, il y a besoin de tenir un discours, d'expliquer que la guerre requiert des moyens supplémentaires. Et dans ces cas-là, l'opinion peut commencer à se demander si véritablement le prince a besoin de cet argent et quel usage il en fait.
Nous voyons ces jours-ci de quelle atmosphère est entourée la question de l'argent caché, de l'argent secret. Il est parfois d'ailleurs à l'époque caché si bien, nous dit-on, que le roi lui-même qui l'avait caché, c'était Louis XI, avait oublié l'endroit où il l'avait mis.
Oui, alors effectivement, il y a toute une série d'histoires de trésors cachés. Notamment, on parle d'un trésor caché dans le château du Crotoy pour une campagne militaire. Là encore, la peur du prince de donner une information sensible, par exemple l'endroit où se cachent ses fonds, l'oblige à prendre des risques, à court-circuiter l'administration, à n'informer personne, à désigner une ou deux personnes de confiance à qui on va confier de cacher le trésor. Le problème, c'est que si cet individu se met à trahir ou à disparaître, eh bien, le trésor peut partir dans la nature.
Cela vous paraît complètement désuet, dépassé, obsolète ?
Absolument pas. Le principe d'un bon secret, c'est qu'on le confie à une personne. Mais du coup, on remet tout son destin entre les mains d'un individu à qui peut éventuellement arriver de changer de camp. Ou pire, si le prince meurt après avoir déposé son trésor dans un lieu secret, la seule personne qui est au courant, c'est le dépositaire. Et à la mort de Jean sans Peur en 1419, on commence à raconter qu'un trésor fabuleux a été caché au château de Lille, mais que celui qui en avait la garde l'a caché et ne l'a pas annoncé au successeur de Jean sans Peur, Philippe le Bon.
On a dû chercher partout.
Semble-t-il que l'affaire n'est pas allée très loin parce que la personne en question avait de puissants soutiens. Mais il y a un autre personnage, le garde des joyaux de Jean sans Peur, qui disparaît au moment de l'assassinat de Montereau et dont on se demande s'il n'est pas parti avec la caisse.
Je voudrais que nous terminions cet entretien sur la question de la politique étrangère. On retrouve l'espionnage, les secrets de toutes sortes. L'usage des espions par les princes mérite l'attention.
Oui, alors l'espion a une face vertueuse admise qui est l'espionnage de la guerre, à la guerre, qui est tout à fait considéré comme une ruse acceptable. C'est l'héritage de Végès. Et donc l'espionnage, c'est une ruse parfaitement admise parce que l'on est dans une situation de guerre ouverte. Le problème, c'est que cet espionnage peut être utilisé dans d'autres domaines. L'espionnage intérieur, pour surveiller ses sujets. Philippe de Mézières insiste sur la pertinence d'avoir des mouchards, pour savoir ce qui se dit, ce qui se fait dans le royaume. Ou vis-à-vis de gens avec lesquels on est censé être allié, ou en train de s'allier. Et là, on entre dans la logique de la diplomatie, qui normalement est censée unir d'un lien d'amour, d'amitié en vue d'arriver à la paix et en réalité qui donne lieu évidemment à toutes sortes de turpitudes dans lesquelles le diplomate se fait parfois espion.
Souvent,
d'autant qu'il a parfois le droit d'immunité, ce qui lui permet de fouiller un peu dans la cour du prince.
C'est pour ça d'ailleurs que les princes n'aiment pas tellement qu'il y ait des ambassadeurs permanents, ils préfèrent les envoyer provisoires.
Exactement, et on dit souvent qu'en France, on a un retard sur les villes italiennes qui établissent des ambassades permanentes, mais en fait, Louis XI explique très clairement aux Italiens qu'il verrait ça comme une surveillance de sa cour et que c'est un manque de confiance que de laisser à demeure un ambassadeur.
Donc, si on rejoint Machiavel, le renard est aussi nécessaire que le lion. Les deux attitudes se combinent.
Je pense que Louis XI n'aurait pas renié cette maxime.
Alors, finissons, Jean-Baptiste Santamaria, finissons par un nouvel extrait des mémoires de Comines, où il évoque la personne de Louis XI. Il a fait ressurgir Louis XI, un roi dont l'histoire suscite beaucoup de réflexions, en somme, et ramasse beaucoup de réflexions sur cette question du secret que nous avons traité aujourd'hui.
Je me suis mis en ce propos parce que j'ai vu beaucoup de tromperies en ce monde, et de beaucoup de serviteurs envers leurs maîtres, et plus souvent tromper les princes et seigneurs orgueilleux, qui peu veulent ouïr parler les gens que les humbles, qui volontiers les écoutent. Et entre tous ceux que j'ai connus, le plus sage, pour soi tiré d'un mauvais pas en temps d'adversité, c'était le roi Louis XI, notre maître, le plus humble en parole et en habit, et qui plus travaillait à gagner un homme qui le pouvait servir ou qui lui pouvait nuire, et ne s'ennuyait point d'être refusé une fois d'un homme qu'il prétendait gagner, mais y continuait en lui promettant largement et donnant par effet argent et état qu'il connaissait lui plaire. Et quant à ceux qu'il avait chassés et déboutés en temps de paix et de prospérité, il les rachetait bien cher quand il en avait besoin, et s'en servait, et ne les avait en nulle haine pour les choses passées. Il était naturellement ami des gens de moyen état, et ennemi de tous les grands qui se pouvaient passer de lui. Nul homme ne prêta jamais tant l'oreille aux gens, ni ne s'enquit de tant de choses comme il faisait, ni qui voulut jamais connaître tant de gens, car aussi véritablement il connaissait tout genre d'autorité et de valeur qui était en Angleterre, en Espagne, en Portugal, en Italie, et est-ce seigneurie du duc de Bourgogne et en Bretagne, comme il faisait ses sujets. Il était léger à parler des gens, et aussitôt en leur présence qu'en leur absence, sauf de ceux qu'il craignait, qui étaient beaucoup, car il était assez craintif de sa propre nature. Et quand pour avoir parlé il avait reçu grand dommage, ou en avait suspicion et le voulait réparer, il usait de cette parole au personnage propre. « Je sais bien que ma langue m'a porté grand dommage. Aussi m'a-t-elle fait quelquefois du plaisir, beaucoup. Toutefois, c'est raison que je répare l'amende. » Et n'usait point de ses privées paroles qu'il ne fît quelque bien au personnage à qui il parlait et n'en faisait nul petit. Encore fait Dieu grand grâce à un prince quand il sait le bien et le mal, et par espécial quand le bien précède, comme au roi notre maître dessus dit.
C'était une lecture de François Beaulieu sur France Inter dans le roman de la prose, c'est un joli titre, de André Frégnaud le 27 mai 1972. Il y a là les oreilles et la langue du roi. Il y a le trop parler et ensuite l'effort pour compenser cela.
Oui, alors là, on est au cœur de la légende du Louis XI, l'universel à règne. Alors, le portrait se veut flatteur et en même temps, il signale effectivement les grandes oreilles de Louis XI, l'universel oreille quasiment, qui entend tout le monde à l'extérieur et à l'intérieur. En fait, c'est le réseau d'espionnage, tout simplement, mais qui est présenté comme une qualité de celui qui est à l'écoute, si je puis dire. Et puis, il y a la langue de Louis XI et là, on voit le paradoxe de celui qui se fait passer pour le maître de l'espionnage, du secret, et en fait qui s'en vante. Et là, effectivement, on a d'autres témoignages sur Louis XI, des ambassadeurs italiens, de son adversaire politique Thomas Bazin, qui nous disent qu'il parle trop et qu'il se vante d'avoir des secrets. Ce qui, évidemment, n'est pas la meilleure manière d'être un maître du secret. À l'inverse de Charles V, qui, lui, passe pour un homme parfaitement rigoureux, mais qui, en réalité, lui, sait manier le secret sans le montrer.
Décidément, le dialogue entre transparence et secret est toujours présent. Il l'a été dans cette émission et bien au-delà. Il l'est bien au-delà de cette émission. Merci, merci Jean-Baptiste Santamaria. Votre livre s'appelle « Le secret du prince, gouverné par le secret ». France, Bourgogne, 13e, 15e siècle. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Champvallon. Je voudrais signaler aussi que, est en librairie depuis peu, l'ouvrage de Denis Oliven et Mathias Schisch-Portisch, qui s'appelle Mortelle Transparence, chez Albin Michel, qui est une réflexion sur la contemporanéité de ces problèmes qui s'enracinent, nous l'avons vu ce matin, très loin en arrière. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site, ainsi que les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez, vous le savez, écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, changement de décor, changement de personnage. Nous passons de Louis XI à Frankenstein. Frankenstein, le monde infini, avec Claude Aziza. Ce sera une émission qui s'inscrira dans le cadre du week-end thématique que France Culture consacrera aux artistes et aux robots, les 7 et les 8 avril. Et puis je précise, j'ajoute que à partir de lundi, vous pourrez retrouver à 9h Emmanuel Laurentin dans la Fabrique de l'Histoire pour une série consacrée à l'histoire de la faim. C'était Concordance des temps, une émission préparée par Jeanne Guéroux avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Anne Kobilac avec Julien Calvas à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Sandra Escamez pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, Christine Ockrent pour Affaires étrangères.